pain sur la table. Une émission de l'École de la foi de Montréal avec Mario Barr, Xavier Graventirol, Violaine Paradis et Georges Convert.
Moi, je suis païen, et il y a quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre. Jésus était bon, il voulait le bonheur pour les pauvres.
Et ils l'ont crucifié. C'est vrai, Théo, que ça peut être difficile à comprendre. Toi, Luc, tu es plus instruit que moi. Essaie donc de lui expliquer.
Mais moi, je n'ai pas été disciple de Jésus comme toi, Marie. La fameuse Marie de Magdala. Toi à qui Jésus est apparu. Tu vois, Théo, quand Jésus guérissait, ou quand il pardonnait, ça ne faisait pas que des heureux.
Cette force qui sortait de lui, c'était quoi ?
Une force d'amour. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu veux le remettre en vie. Tu lui communiques ce que tu as de meilleur en toi. Jésus nous redonnait l'espérance. Quand tu te trouvais auprès de lui, tu sentais que tu pouvais refaire ta vie.
Jésus ne s'arrêtait pas au mal du corps. Il voulait aussi guérir l'âme. D'ailleurs, il peut même arriver qu'on soit malade physiquement parce qu'on a mal dans son cœur.
Moi, avant de rencontrer Jésus, j'étais toute mélangée. Je ne savais plus où j'en étais. J'avais comme des démons qui m'habitaient. Je n'étais pas heureuse. Mais quand j'ai croisé son regard, j'ai su que j'étais aimée, qu'il pouvait m'aider, qu'avec lui, je pouvais guérir.
Alors c'est son amour qui t'a guérie ?
Cela n'est pas arrivé qu'à moi. Une fois, on lui avait amené un homme qui était paralysé. Mais il y avait tellement de monde devant la maison de Simon-Pierre. Alors les porteurs sont montés sur la terrasse. Et ils ont fait un trou dans le toit.
Un trou dans le toit ? Comment ça ?
Dans notre pays, c'est facile. Les toits sont faits avec des branchages et de la terre battue. Ils ont descendu le brancard. En voyant leur foi, Jésus leur a dit :
« Tes péchés te sont pardonnés. »
Les scribes et les pharisiens raisonnent en eux-mêmes : « Quel est cet homme qui dit des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, connaissant leur raisonnement, leur rétorque :
Pourquoi raisonnez-vous dans vos cœurs ? Qu'y a-t-il de plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou bien de dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés, je te dis « Lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison ».
À l'instant, celui-ci se lève devant eux et il part pour sa maison en rendant gloire à Dieu. C'est l'amour que tu donnes au malade qui guérit son mal intérieur.
Mais ce n'est pas Dieu seul qui peut pardonner.
Quand on a fait le mal, c'est d'abord parce qu'on manque d'amour. Alors pardonner, c'est redonner à la personne l'amour qui lui manque. Et cet amour-là, il faut qu'il vienne de celui qui est plein d'amour, Dieu. Un jour, Jésus mangeait chez un pharisien. Une pécheresse est entrée avec un flacon de parfum. Elle se place tout en pleurs, aux pieds de Jésus, baigne ses pieds de larmes, et les essuie avec ses cheveux, les couvre de baisers. Le pharisien, lui, est scandalisé. Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prend alors la parole et dit :
Simon, j'ai quelque chose à te dire.
Parle, maître.
Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus ?
Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grande dette.
Tu as bien jugé. Eh bien, tu vois cette femme. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour les pieds. Mais elle, elle a baigné mes pieds de ses larmes. Il les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te déclare que ses péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Femme, Tes péchés ont été pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix.
Si tu as conscience de beaucoup manquer d'amour, alors tu es prête à en recevoir beaucoup.
Ça voudrait dire qu'on se prive d'amour si on n'a pas conscience d'être fautif.
Plus tu sens ton vide intérieur, et plus tu es capable d'ouvrir ton cœur.
L'amour de Dieu, c'est comme la lumière. Si tu bouges toutes les fenêtres de ta maison, la lumière ne peut plus entrer. Comme celui qui se croit correct. Il ne laisse pas la lumière de l'amour pénétrer son cœur.
C'est la parabole que Jésus disait à ceux qui sont convaincus d'être bons. Il y a deux hommes qui montent au temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre est un collecteur d'impôts.
Le pharisien, debout, prie « Dieu, je te rends grâce du fait que je ne suis pas comme le reste des gens. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Moi, je jeûne deux fois par semaine et je paie la dîme de tout ce que j'acquiers. » Le collecteur d'impôts, lui, se tient en arrière. Il ne veut même pas lever les yeux au ciel. Il se frappe la poitrine. « Dieu, sois miséricordieux pour le pécheur que je suis. » Amen, je vous le dis. Ce dernier redescend chez lui avec un cœur droit, mais l'autre, non.
Les pharisiens, quand ils entendaient ça, ils enrageaient contre Jésus. Jésus avait tellement d'amour. Il voulait tellement guérir les gens, les malades comme les pécheurs, et il leur redonnait leur dignité. C'est pour ça qu'il n'avait pas peur de manger avec eux.
Et pourquoi il aurait eu peur?
Chez nous, quand tu manges avec quelqu'un d'impur, tu deviens impur toi aussi. Alors tu dois éviter de fréquenter l'impur. Tu pourrais attraper les forces mauvaises qu'il a en lui.
Quand tu as approché quelqu'un qui est impur, tu dois te purifier.
Comme quelqu'un qui serait contagieux. Mais comment on devient impur?
Si tu fréquentes des païens, ils sont impurs parce qu'ils peuvent adorer des idoles qui ne sont pas le vrai Dieu du ciel et de la terre. Si tu fréquentes les collecteurs d'impôts, les publicains, ils sont impurs parce qu'ils travaillent avec les Romains, des païens impurs. On a souvent reproché à Jésus de manger avec les publicains.
Pour les scribes, le voir manger avec ces gens-là, c'était la honte.
Accueillir les pécheurs, passe encore. Mais se faire leur compagnon de table, ça ne passait pas.
Chez nous, quand tu manges avec quelqu'un, ça veut dire que tu es son ami.
Dans la langue des Romains, le mot compagnon, ça veut dire partager le pain.
Une fois, on passait par Jéricho. Jésus s'est invité chez un publicain, Zachée. Ça en a scandalisé plus d'un. Il est allé loger chez un pécheur.
Et qu'est-ce que Jésus répondait à ceux qu'il critiquait?
Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades.
Être bien portant, ce n'est pas seulement être fidèle aux préceptes de la Torah. Pour Jésus, si tu tires vanité de ta fidélité, si tu ne fais pas ça avec amour, eh bien, ça ne vaut pas grand-chose.
Dans un cœur qui a pris conscience de ses fautes, il y a souvent plus d'amour que dans le cœur d'un juste, de celui qui croit qu'il n'a pas besoin de se convertir.
Ce soir-là, Zachée a annoncé qu'il allait rembourser tous ceux qu'il avait volés.
Il y a un paquet de gens qui ont dû se réjouir.
Les gens ne devaient plus regarder Zachée de la même manière. Ils devaient se dire, même lui, il peut changer. Et si Zachée a changé, c'est parce que Jésus lui a fait confiance. Un changement comme celui-là, c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu.
Quand on lui reprochait sa façon de se comporter avec les pécheurs, Jésus répondait qu'il agissait comme Dieu, son Père.
Alors ça veut dire que Dieu a de la joie quand quelqu'un s'ouvre à l'amour?
Théo, as-tu déjà entendu la parabole du Père prodigue et des deux fils?
Pour moi, c'est la plus belle des paraboles. En tout cas, une des plus belles.
C'est un homme qui a deux fils. Le plus jeune demande à son père d'avoir tout de suite sa part d'héritage.
Un effronté. Il n'attend pas que son père soit devenu trop âgé pour pouvoir diriger sa ferme. En plus, il coupe les ponts avec sa famille.
Le père partage donc ses biens et le plus jeune quitte la maison. Il s'en va dans un pays lointain.
C'est pour dire qu'on s'éloigne de Dieu. On coupe les ponts avec le Père des cieux.
Il fait la bamboula, il dilapide toute sa fortune. Quand il a eu tout dépensé, il est obligé de s'engager dans une porcherie.
Il me semblait que les porcs, pour un juif, c'était des animaux impurs.
Oui, le comble de la déchéance.
Il n'a rien à manger, pas même la nourriture des porcs.
Mais avec son argent, il avait dû se faire plein d'amis.
Tu crois avoir des amis, mais quand tu n'as plus un sou, tu te retrouves tout seul. Tu t'aperçois que c'était ton argent qu'on appréciait.
Tu peux même douter d'avoir jamais été vraiment aimé.
Lui, il doute même de l'amour de son père. Il se dit, les ouvriers de mon père ont du pain de reste et moi je meurs de faim. Alors il songe à revenir à la maison, mais pas comme fils, comme ouvrier.
C'est pas ce qu'on peut appeler du repentir. Il ne pense même pas à la peine de son père.
Comme il est encore loin sur le chemin, son père l'aperçoit. Il court se jeter à son cou et l'embrasse longuement.
Son père ne lui demande aucune explication.
Le père lui donne un vêtement neuf, des sandales. Il lui redonne même l'anneau avec le sceau. Avec ce sceau que tu es capable de payer avec l'argent de la famille. Il fait même préparer un festin. On tue le veau qu'on engraissait pour les fêtes.
Lui, il se considère indigne d'être traité en fils. Mais le père, il agit vraiment comme son père.
Le père est trop bon. Il se laisse marcher sur les pieds. Il devrait au moins demander des comptes.
Le père est trop remué en dedans, trop heureux de voir son fils revenir. Pourquoi punir? Tu ne penses pas que le fils est assez malheureux comme ça? Imagine un peu sa honte.
Sa honte? Mais il a dilapidé la moitié de la fortune de son père. Ça suffit pas d'avoir honte, il faut rembourser.
Le frère aîné était au champ. À son retour, quand il approche de la maison, il entend la musique. Et quand il demande pourquoi cette musique, il se fait dire que c'est pour le retour de son frère.
Et alors?
Il est furieux. Il refuse d'entrer.
Moi, j'aurais réagi comme lui. Le père, c'est comme s'il récompensait l'ingratitude de son fils.
C'est normal que tu réagisses comme ça, mais quand on aime, on fait des folies. Imagine comment le père a souffert pendant tout le temps que son fils a été parti.
C'est pour ça que le père est fou de joie. Mon fils était comme mort et il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé.
Ça n'empêche pas qu'il faut quand même être juste. Le fils aîné est toujours resté avec son père. Et on ne l'attend même pas pour faire la fête.
Mais non, le père est tellement heureux. Alors il fait tout pour que son fils retrouve sa vie de fils. Et ça n'enlève rien à l'aîné.
Mais si on est récompensé quand on fait le mal, à quoi ça sert d'être correct?
Ça ne sert à rien. Tu dois faire le bien parce que tu aimes, c'est tout. Si le père marchandait son pardon, ce ne serait pas vraiment de l'amour.
Alors, le père sort pour prier son fils aîné de se joindre à la fête. Il se fait répondre « Depuis toutes les années que je te sers, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. »
Bien répondu. Le père, qu'est-ce qu'il pouvait répondre à ça?
« Toi, tu es toujours avec moi. Ce qui est à moi est à toi. »
Je vois pas le rapport.
Si le père récompensait son fils parce qu'il a été correct avec lui, alors ce serait comme s'il le traitait comme un ouvrier, non?
Bien sûr. Alors que le père lui dit « Tu es mon fils, je t'aime, je t'ai déjà tout donné. »
C'est ce que Jésus disait de son Père du ciel. « Le Père et moi, nous sommes un. Et tout ce qu'a le Père est mien. »
C'est ça que le Père aurait voulu que son fils aîné comprenne.
Le drame du fils aîné, c'est son besoin de justice. Ça l'empêche de se laisser aller à l'amour. Il ne parle même pas de son frère. Il dit « ton fils ».
Mais le père lui rappelle que c'est son frère. Ton frère était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il l'est retrouvé.
C'est pour ça qu'il faut festoyer, se réjouir.
Moi, je suis pas d'accord. D'abord, qu'il répare.
Toi, Théo, tu réagis comme le fils aîné. Vous êtes comme les pharisiens. Eux aussi n'aimaient pas que Jésus fasse la fête avec les pécheurs.
Le drame du fils aîné, c'est qu'il a fermé son cœur à l'amour. C'est ça, le péché. Se fermer à l'amour et devenir incapable de pardonner.
Quand tu ne peux plus pardonner, tu ne peux pas te laisser pardonner. Alors, tu fais ton propre malheur.
Père, fais que nous n'entrions pas dans la tentation. C'est ce que Jésus nous fait demander à Dieu. Eh bien, la plus grande tentation, c'est de se mettre à douter de l'amour. Douter que l'amour est assez fort pour nous changer.
Pardonner, c'est dire à l'autre qu'il est meilleur que ce qu'il fait. C'est l'aimer tellement que ça va l'aider à changer sa vie.
Mais le père n'aurait pas pu exiger que son fils répare sa faute? Lui faire payer son ingratitude pour qu'il ne recommence pas?
Mais tu me fais penser à ce que je vivais quand j'étais petite. Quand je faisais une bêtise, ma mère me punissait. Elle me faisait un visage dur et moi je me disais qu'elle ne m'aimait plus. C'est seulement quand j'avais fini ma punition qu'alors j'avais droit à être embrassée. Dans ma petite tête d'enfant, je me disais « Marie, si tu n'es pas parfaite, tu ne peux pas être aimée. » Même de maman.
Et ce n'est pas comme ça qu'on agit avec Dieu?
Oui. Quand tu as péché, il faut que tu offres un sacrifice au temple. C'est seulement quand tu as payé l'offrande que tu es pardonné. Et si tu n'as pas d'argent pour payer l'offrande, tu penses que tu es condamné par Dieu. Longtemps, j'ai pensé que Dieu ne pouvait pas m'aimer, parce que je n'étais jamais vraiment correcte. et que je ne le serai jamais.
Jésus disait que le Père n'attend pas pour te pardonner que tu aies réparé ta faute. Tu es pardonné dès que tu ouvres ton cœur à Dieu. Et quand tu auras accueilli ce pardon, alors tu vas avoir la force de réparer le tort que tu as fait.
Ça me rappelle un moment terrible que j'ai vécu avec Jésus. On était au temple. Il enseignait et beaucoup de gens l'écoutaient. Tout d'un coup, il y a tout un groupe qui arrive. Des gens en furie qui traînent une femme qu'on a surprise en délit d'adultère. Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la Torah, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? Jésus se baisse et se met à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme il continue à lui poser des questions, il se redresse et leur dit
« Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. »
Et s'inclinant à nouveau, il se remet à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirent l'un après l'autre, à commencer par les anciens. Comme la femme est toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redresse et lui dit
« Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ?»«
Personne, Seigneur. » »«
Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. »
Tu peux faire les plus grandes folies. Notre Père des cieux espérera toujours en toi.
Le Père du ciel est le Dieu de la vie, et pas celui de la mort. Le Dieu qui est amour ne pense qu'à nous faire vivre.
Mais il y a des gens qui pensent davantage à la punition qu'au pardon. Pourtant, pour aider quelqu'un à changer de vie, une main sur l'épaule, ça vaut mieux qu'un coup de pied ou derrière.
La punition, c'est souvent les conséquences de notre faute. La vie se charge assez de nous punir. Ce n'est pas la peine que Dieu en rajoute.
Les anciens qui entraînaient cette femme jusqu'à Jésus, ils devaient être scandalisés.
Comme le fils aîné. Ces anciens, c'étaient des membres du Grand Conseil, le Sanhédrin. Ils ont perdu la face devant ceux qui étaient là, ceux qui écoutaient l'enseignement de notre maître. Tu imagines, Théo, qu'ils vont vouloir se venger et faire payer à Jésus cet affront?
Mais il y a quand même des fautes qui ne peuvent pas être pardonnées. Torturer un enfant, si on pardonnait un crime pareil, ça ferait un monde inhumain.
Est-ce que tu ne penses pas comme ça, parce que tu vois le pardon, comme si c'était excuser celui qui a fait le mal, ou comme si on oubliait le tort qui a été fait?
On doit quand même assumer les responsabilités de nos actes, non?
Le pardon n'excuse jamais le mal. Il veut guérir celui qui a fait le mal. Ce n'est pas pareil.
Dans le pire des meurtriers, il y a toujours une petite flamme de bonté. Pardonner, c'est aider à faire grandir cette flamme.
Mais il ne faudrait pas croire que le pardon, c'est quelque chose d'instantané. Ça peut prendre des jours, des mois. Le pardon, il faut le voir comme une guérison. Une plaie, ça demande du temps pour qu'elle guérisse.
Et on reste toujours fragile. On reste toujours blessé, plus ou moins.
En outre, toi, tu peux vouloir pardonner à celui qui a fait mal. Mais il faut encore qu'il accueille ton pardon.
Et s'il refuse ?
Personne ne peut le forcer.
Une fois, Simon-Pierre avait posé la question à Jésus. « Si mon frère commet une faute envers moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ?»
Et qu'est-ce qu'il a répondu ?
« Je ne te dis pas 7 fois, mais... 77 fois, 7 fois.
77 fois, 7 fois. C'est pas exagéré.
Surtout que chez nous, 7 fois veut déjà dire toujours. À la fête juive de Kippour, tu dois demander pardon à ceux à qui tu as fait du tort. Et c'est seulement après que tu peux demander pardon à Dieu. Jésus était d'accord avec ça.
Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens alors présenter ton offrande. Si vous pardonnez aux humains leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux humains, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes.
J'avoue que je ne comprends plus. Je croyais que Dieu nous donnait le pardon sans mettre des conditions. Mais s'il faut pardonner pour être pardonné, c'est pas une condition?
Ce qui est écrit dans le livre du Siracide peut aider à comprendre. Si quelqu'un nourrit de la colère contre un autre, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Il est sans compassion pour son semblable et il prierait pour ses propres fautes.
On ne peut pas refuser d'aimer son frère et en même temps vouloir que Dieu nous aime.
Parce qu'en accueillant le pardon de Dieu, on s'ouvre à l'amour. Et en refusant de pardonner à l'autre, on se ferme à l'amour. Ce n'est pas Dieu qui met les conditions à son pardon. C'est nous qui tuons en nous le pardon de Dieu.
Tu ne peux pas dire « j'aime Dieu » et haïr ton frère. Ou alors tu te mens à toi-même.
C'est ce qu'on trouve écrit dans le Siracide. Pardonne à ton prochain ses torts, alors, à ta prière, tes péchés seront remis.
Ce que dit le Siracide, ça se retrouve dans la prière de Jésus. Père, pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous.
On pourrait dire que se pardonner, c'est comme un service que les disciples doivent se rendre les uns les autres.
Si ton frère vient à pécher, va le trouver et fais-lui tes reproches, seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il refuse d'écouter même l'assemblée, qu'il soit pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts. Amen. Je vous le déclare, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel.
Ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel. Ça veut dire quoi?
C'est une formule juive. Ça signifie permettre et interdire. Si quelqu'un a fait une faute grave, tu le lis. Tu lui interdis de fréquenter la synagogue. Mais par le pardon, tu le délies. Tu l'accueilles de nouveau dans la communauté.
Tu dois surtout prendre ça au positif. Ce que vous délirez sera délié au ciel. Le ciel, ça représente Dieu. Le ciel, c'est partout où Dieu se trouve.
Donc, quand tu pardonnes les fautes de quelqu'un, Dieu lui pardonne.
Ce n'est donc pas Dieu seul qui peut pardonner.
Quand les pharisiens voyaient Jésus dire à quelqu'un « Tu es pardonné », ça les scandalisait. Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés?
Chaque personne est comme un relais de Dieu pour donner le pardon. Et Jésus a tellement d'amour en lui qu'il est un relais parfait de Dieu.
Cette bonté qu'il a envers tous les pécheurs, c'est ce qui lui a valu la mort. Car bien des pharisiens trouvaient que sa façon de pardonner, ça ne pouvait qu'encourager les pécheurs à pécher. Alors ils lui tendaient des pièges, comme avec la femme adultère.
Un piège? Comment ça?
La Torah ordonne de lapider ceux qui sont adultères. Alors si Jésus s'oppose à ce qu'on lapide la femme, on pourra l'accuser de s'opposer à la Torah. Et la Torah, c'est l'enseignement que Dieu lui-même a donné à Moïse. Et s'il dit qu'il faut la lapider, il n'est plus l'homme du pardon, de la bonté. Et alors les petites gens, les pécheurs n'auront plus confiance en lui.
Son attitude envers la femme adultère, Jésus savait que les autorités ne la lui pardonneraient pas et qu'on chercherait à le faire mourir. Mais jamais Jésus n'a laissé la vengeance ou la haine l'envahir. Jusqu'à la croix, c'est l'amour qui a habité son cœur.
Et quand il est revenu à la vie, il a insufflé son souffle de vie et de bonté dans le cœur de ses disciples.
La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie, recevez le souffle spirituel de sainteté. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.
Pardonnez-vous les uns aux autres. C'est un peu comme le testament de Jésus.
Alors si on est disciple de Jésus, on peut pardonner au nom de Dieu.
On peut pas, on doit. C'est comme une mission qu'on a reçue. Le Père a besoin de nous pour communiquer son souffle d'amour.
Pourtant, même si on est disciple, on reste malgré tout un pécheur.
Ce n'est pas parce qu'on est meilleur que l'autre qu'on peut pardonner. Quand tu pardonnes, tu ne pardonnes pas seulement avec ton amour à toi, mais avec l'amour de Jésus. Il met en nous son souffle, sa force d'aimer.
Parce que Jésus a été fidèle à l'amour et au pardon jusqu'au bout, jusqu'à la mort, aujourd'hui, on peut puiser en lui l'amour. Un amour qui donne la force du pardon.
Tu ne peux pardonner que si tu pries, si tu demandes à Dieu la force de son amour.
C'est ce que Jacques a écrit dans sa lettre aux chrétiens de la diaspora. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris.
Vive le pardon comme ça, c'est impressionnant. La communauté de Jésus, c'est donc une chance inouïe.
Et c'est une chance, comme tu dis. Mais c'est d'abord une responsabilité. Tous ensemble, on est responsable du pardon de Dieu dans le monde, en étant témoin de sa tendresse.
C'était Le pain sur la table. Cette semaine, vous avez entendu un extrait de Yeshua dit Jésus, une série de 12 vidéos qui sera distribuée par l'archevêché de Montréal dès novembre 2001. Violaine Paradis interprétait Marie de Magdala, Mario Barre, Luc l'évangéliste, Xavier Graventirol interprétait Théophile le païen, Georges Convert prêtait sa voix à celle de Jésus. Si vous désirez le texte ou la cassette de cette émission, téléphonez au numéro 514-256-4110. 514-256-4110. Chers auditeurs et auditrices, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.